Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est donc cette semaine qu'a débuté le Ramadan pour les fidèles musulmans. Un mois de jeûne pour respecter le troisième des cinq piliers de l'islam. Alors si le Coran exempte de restrictions alimentaires les personnes qui ne peuvent le supporter et prévoit des dérogations pour les enfants, les femmes enceintes, les malades, mais aussi les voyageurs, et bien certains souhaitent malgré tout s'astreindre à ce mois de jeûne. Au-delà des croyances de chacune et de chacun, cette période de restriction alimentaire peut avoir un impact certain sur la santé, en particulier pour les personnes qui souffrent de maladies chroniques, cardiaques, digestives ou insuffisance rénale. Mais entre toutes ces pathologies qui affectent au long cours le quotidien des patients, c'est très certainement le diabète qui impose la vigilance la plus étroite pour éviter que l'espacement des repas, les changements d'horaire dans la prise des traitements associés à l'interdit de boire ne viennent encore accentuer la pathologie. Une étude publiée l'an dernier par le CHU de Liège en Belgique estimait que sur les 382 millions de personnes diabétiques dans le monde, 90 millions sont musulmanes. D'où l'importance de consulter avant d'entreprendre le jeûne pour comprendre les enjeux de santé et de reconnaître les signes qui doivent alerter. Diabète et Ramadan pour éviter bien sûr les complications aiguës. Pour en parler avec nous en ligne de Tours, docteur Samia Farhad, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en endocrinologie, nutrition, maladies métaboliques. On vous retrouve en direct des studios de France Bleu Touraine, que l'on remercie pour leur accueil. Tout à l'heure, nous partirons pour le Mali pour retrouver le professeur Assassi Dibé, endocrinologue, diabétologue, chef du service à l'hôpital du Mali. On attend vos témoignages et vos questions, bien sûr, au 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, nous consacrerons notre bulletin de santé à la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, dans la région de l'Équateur. Une réunion aujourd'hui d'un comité d'urgence par l'Organisation mondiale de la santé, ça va se passer à Genève, alors que depuis hier, en RDC, un cas est recensé officiellement dans la grande ville de Mbandaka qui dépasse le million d'habitants.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Samia Farhad, qu'est-ce que la spécialiste des maladies métaboliques que vous êtes dit à ses patients lorsqu'ils veulent observer le jeûne du Ramadan alors qu'ils sont atteints d'une maladie chronique ?
Alors, tout d'abord, on explique les risques. Et puis, en fait, les conseils sont très personnalisés puisque le jeûne va être permis pour certains et puis pas pour d'autres en fonction de leur état métabolique, de leur niveau glycémique, de leur équilibre glycémique, des complications du diabète déjà présentes, de l'âge, voilà, de toutes les maladies qui peuvent être associées. On va et puis du traitement aussi, hein, puisque selon le traitement, on va pouvoir ou non jeûner. Et j'ajouterais même, selon le niveau de compréhension et d'éducation thérapeutique du patient, puisque tout le monde n'est pas capable de gérer comme il faudrait son diabète pendant cette période très délicate.
Alors, il y a des dimensions plurielles, cette dimension sanitaire, la dimension spirituelle aussi, parce que la plupart des musulmans, même tous, savent que il y a des dérogations pour les cas particuliers, les enfants, ça tout le monde le sait, mais malgré tout, certains malades, on peut dire, persistent et signent et veulent jeûner, même si normalement, le Coran dit qu'ils ne doivent pas le faire.
Oui, alors parce que le Ramadan, ça a une dimension bien sûr religieuse, spirituelle, mais ça a aussi une dimension culturelle et culturelle aussi, culturelle très très importante. C'est un des piliers de l'islam qui est pratiqué en groupe. Vous appartenez à un groupe, vous faites comme le groupe. Il est hors de question d'aller manger quand personne ne mange, quand vous êtes dans cet environnement qu'il soit familial ou sociétal, manger est très très mal vécu, et ne pas jeûner, et quand bien même effectivement le Coran a prévu des dérogations, les imams, donc les hommes religieux, sont là pour appuyer les conseils des médecins, eh bien voilà, jeûner à cette dimension tellement multifactorielle et tellement importante qui fait de vous un individu appartenant à ce groupe, que les gens ont du mal à se résoudre à suivre les conseils qui leur sont donnés, qui leur est donné de ne pas jeûner.
Alors, par exemple, docteur Samia Farhad, est-ce qu'on peut dire que le jeûne est déconseillé pour tous les diabétiques ?
Non. Ce que je vous disais en préalable, c'est que, en fait, selon l'état métabolique, selon le traitement qui est pris, selon l'ancienneté du jeûne, il y a donc un groupe de patients auxquels on va permettre de jeûner. Et la Fédération internationale du diabète a défini, la Fédération américaine puis la Fédération internationale du diabète ont défini des groupes avec des niveaux de risque différents. Jusqu'à présent, il y avait 4 niveaux, et puis là récemment, ça a été réduit à 3 niveaux. Donc un premier niveau où le risque est faible ou modéré, ces personnes sont autorisées à jeûner moyennant un certain nombre d'explications, une consultation préalable, un aménagement du traitement, des conseils bien sûr, d'alimentation, d'hydratation, d'activité physique. Et puis 2 autres groupes où le risque est plus important, important ou très important, où bien sûr le jeûne est contre-indiqué, soit de façon relative, soit de façon absolue. Et après on s'adapte, comme je vous le disais, à l'individu même.
Alors justement, quand on parle diabète, on est souvent amené à parler diabète de type 1, diabète de type 2. Est-ce que cette différence s'applique aussi quand on envisage justement ce mois de Ramadan, docteur Samia Farhad ?
Oui, bien sûr. Les diabétiques de type 1 ont quand même plus de risques du fait qu'ils ont de l'insuline, qu'ils doivent adapter, et donc c'est bien plus compliqué. Il y a une étude qui avait été menée il y a une quinzaine d'années de ça, l'étude EPIDIAR, qui avait concerné 13 pays et plus de 12 000 patients, qui a montré que 50% des diabétiques de type 2 jeûnaient, et un tiers des diabétiques deux tiers des diabétiques de type 2 jeûnaient, alors avec ou sans le consentement du médecin, et la moitié des diabétiques de type 1. Oui. Si on regarde bien de près, on verrait que pour la plupart d'entre eux, le jeûne est contre-indiqué. Et le fait d'être à l'insuline et d'être en carence absolue d'insuline, bien sûr, majore énormément le risque.
Docteur Samia Farhad, cette question qui peut vous sembler un petit peu naïve, quand on s'injecte de l'insuline, on ne respecte pas le jeûne ?
Pas du tout. Ce sont les traitements oraux qui peuvent invalider le jeûne.
C'est justement l'objet de ma question. Dans ce cas-là, quand on s'injecte l'insuline, quand on est insulino-dépendant, on a le droit de continuer à en percevoir, par exemple, au cours de la journée, comme c'est souvent nécessaire. Et donc, dans ce cas-là, on peut malgré tout faire les deux.
Oui, sauf que si on s'injecte de l'insuline, ça veut dire que l'on mange à la suite de l'injection.
D'accord, les deux vont toujours ensemble.
Presque toujours, il y a une insuline, on peut faire une insuline lente, celle-ci n'est pas dépendante du repas, et de toute façon, elle n'invalide pas le jeûne en aucun cas.
Alors au cours de la journée, il y a des périodes particulièrement critiques, hein, on peut bien le dire, pour les patients diabétiques qui ont jeûné, les deux moments des repas, bien sûr, essentiels, et puis les périodes entre les deux, justement, pour tenir, pour ne pas avoir de crise à ces moments critiques.
Oui, alors le risque ou les risques sont presque paradoxaux, puisque dans la journée, on est exposé à l'hypoglycémie et à la déshydratation, puisque on ne mange pas pendant plusieurs heures. Hein. Actuellement, nous sommes dans la période de l'année où les jours sont quasiment les plus longs. Le 21 juin, qui est juste après le Ramadan, est le solstice d'été. Donc là, on est à peu près à 18 heures de jeûne. Donc je vous laisse imaginer un diabétique sans hydratation et sans alimentation pendant 18 heures. Donc là, c'est l'hypoglycémie auquel il est exposé. à laquelle il est exposé. Il va devoir se surveiller pour traquer cette hypoglycémie. Et puis, le problème, c'est qu'il y a une suralimentation nocturne. Donc, au moment de la rupture du jeûne, on est mal en point, on est fatigué, on est déshydraté. Donc, on va beaucoup boire et surtout, on va beaucoup s'alimenter. Et quelquefois, un mauvais choix d'aliments qui ont des index glycémiques élevés, c'est-à-dire qui sont très hyperglycémiants. Et on va se retrouver avec des glycémies à 2 grammes, 3 grammes, voire plus. Et on sait que les urgences sont vraiment surchargées pendant cette période parce que les gens se retrouvent souvent aux urgences.
On va reparler justement tout à l'heure de ces conseils en nutrition, savoir ce qu'il vaut mieux éviter hein, sur la table. Docteur Semia Farhad, vous restez avec nous en direct de Tours. On part à la rencontre d'une famille en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
C'est la famille Koulibaly hein, qui a eu la gentillesse hier soir d'ouvrir les portes de son appartement de Gagny à Priorité Santé. Amélie Beaucourt était sur place pour la première rupture du jeûne. Et parmi les 5 personnes présentes, Niuma, elle a 33 ans et elle est diabétique de type 2.
Bonjour.
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 Niuma.
Oui. Ça va? Ma mère.
Enchantée. Là, tu m'as dit, il y a du thé.
C'est des feuilles de quinquilibre. C'est comme du thé, on va mettre un peu de menthe, des feuilles de menthe, et voilà. Avec du sucre, normalement, ça se boit, mais comme je suis diabétique, moi, je le bois comme ça, sans du sucre. Ensuite, qui dit rupture de jeûne ramadan, dit date. Là aussi, avec le diabète aussi, c'est pas permis. Mais moi, quand je fais la rupture, vu que je ne mets pas de sucre dans mon quinquilibre, je me contente d'une seule date. Bon, donc là, c'est la bouillie qu'on fait ça. Ça, cette bouillie aussi, on le fait au Mali, à base de semoule de mil. Ça, c'est les beignets aussi, à base de semoule de mil aussi, qu'on fait. Et le mien, c'est pas sucré. Pour les autres, c'est sucré, mais le mien, je l'ai fait sans sucre. Un peu de sucre, vanille, et c'est tout. J'ai pas mis de sucre.
Donc, tu fais un repas différent pour ta famille et pour toi?
Exactement.
Ça fait combien de temps que tu es diabétique?
Depuis 2012. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Souvent, je suis très indisciplinée côté régime alimentaire, mais bon, ça va, j'arrive à tenir.
Donc depuis 2012, tous les ans, tu fais quand même le ramadan?
Pour l'instant, ce n'est pas un handicap pour moi. Vu que cette année, mon traitement a changé et que je suis maintenant sous insuline, au coucher, avant le début du ramadan, j'ai consulté mon diabéto. Donc, j'ai eu à faire en début de semaine des examens, des analyses sanguines. Et dans 15 jours, j'ai rendez-vous avec elle pour voir si tout va bien et à elle de juger si je dois continuer ou pas. Là, tout de suite, ce que je vais faire, c'est consulter, contrôler ma glycémie. Parce que ça, je dois le faire avant de manger, je dois le faire, mais ce qui est, c'est sûr que ça va pas me donner un taux plus élevé vu que j'ai pas mangé toute la journée. Donc voilà, le taux il doit être parfait. Ça, je vais le faire avant de rompre. Là, ça affiche le résultat. On est à 0,97. Je m'attendais à un résultat comme ça parce que voilà, vu que j'ai rien mangé de toute la journée, donc voilà, c'est nickel. Si je regarde mon cahier, quand c'est pas ramadan, avant le dîner, je suis à 1,1 souvent, 1,7, voilà. Atikara?
Non.
Bon, là, on va rompre. Je m'imagine pas ne pas jeûner le mois de ramadan. C'est très très important pour moi. C'est un mois que j'accueille avec plaisir et que j'attends avec impatience parce que voilà, c'est un mois de soumission.
Ta famille, par rapport à ça, comment eux ils perçoivent le fait que tu continues à jeûner alors que tu es diabétique?
Bah, ma famille, tout comme mes proches, mes amis, tout le monde se dit, ah, tu es diabétique, toi, tu devrais pas jeûner, tu es diabétique, tu devrais pas jeûner parce que l'islam même ne recommande pas ça. Le jeûne n'est pas conseillé à ceux qui sont malades et qui sont vraiment incapables de l'observer. Donc, du coup, c'est pas une obligation pour ceux qui sont diabétiques de jeûner. Et moi, c'est par plaisir que je le fais. Chaque fois, voilà, au cours de la journée, si je suis à la maison, on me demande chaque fois si ça va, si ça se passe bien. Voilà, ma famille veille. On vient de commencer aujourd'hui, c'est le premier jour et pour l'instant, ça va.
Ce reportage signé Amélie Beaucourt. On vous retrouve, docteur Samia Farah, en direct de Tours. On a entendu cette jeune femme, Niouma, très informée, très à l'écoute, à la fois d'elle-même et de son médecin. C'est plutôt une bonne attitude quand on est diabétique.
C'est une perle. Ouais. C'est une perle, cette jeune femme.
Elle a son cahier, elle est studieuse.
Elle a 20 sur 20, même au niveau alimentaire. Elle voit son médecin avant.
Elle va le voir
pendant,
dans 15 jours.
Elle supprime le sucre. Donc les sucres rapides, les sucres simples, effectivement, sont générateurs de pics d'hyperglycémie qui peuvent déséquilibrer le diabète. Elle prend des boissons, donc elle s'hydrate correctement. Elle prend du mil dans lequel elle ne rajoute pas de sucre. Donc ça, c'est un sucre lent qui va lui permettre de se resucrer à un niveau tout à fait acceptable et sur une longue durée. Elle contrôle ses glycémies dans la journée. Vous voyez, elle finit sa journée à un taux
satisfaisant.
Très satisfaisant. Elle a parlé des dates, elle a dit qu'elle se l'interdisait. Elle en prend une, je crois. Mm-hmm. Je crois qu'elle a dit qu'elle en prenait.
Elle en prend une, justement, pourquoi?
Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que la date, de même que le ramadan, a une dimension, la rupture du jeûne avec la date.
C'est spirituel aussi.
C'est spirituel aussi parce que le prophète Mohamed prenait des dates, rompait le jeûne avec des dates, donc on essaye de limiter, et c'est pour ça que il est important de rompre. Donc on peut pas dire, on peut pas tout interdire. Simplement, on peut expliquer la modération, et c'est le cas chez cette jeune fille.
Et l'adaptation alimentaire également, l'adaptation du traitement. C'est pour ça que c'est important de consulter avant. Le médecin justement peut opérer certains petits changements. Oui. Samia Farad?
Ah oui, oui, tout à fait. Même parmi ces personnes, enfin pour ces personnes pour lesquelles le jeûne est autorisé, il doit y avoir un aménagement du traitement. Certaines prises médicamenteuses sont déplacées au soir, d'autres au matin. On va alléger le traitement du matin, on va supprimer bien sûr la prise de midi, on va peut-être renforcer la prise de la rupture du jeûne.
Quand on vous écoute, on comprend que c'est indispensable de consulter avant.
Ah, c'est le conseil, c'est le conseil avec un grand L. C'est-à-dire que s'il y avait qu'une chose à retenir pour nos auditeurs, c'est ce conseil-là. Consultez votre médecin, parce que déjà l'individualisation de la prescription médicamenteuse et des conseils à donner. On ne peut pas donner tous les conseils. Vous voyez, la famille de cette jeune fille lui dit de ne pas jeûner. Non, elle peut très bien jeûner, parce qu'elle a très bien compris comment il fallait faire, ce qu'il fallait faire.
Mais pour ça, il faut être sérieux.
Il faut être très sérieux. Ça nécessite une grande rigueur, un sérieux et une surveillance. Et ne pas hésiter à rompre son jeûne si on n'est pas bien. Parce qu'il peut... Là, elle est bien aujourd'hui, mais peut-être que dans 15 jours, ça sera moins facile. Et peut-être qu'un jour, elle va passer sa matinée à l'extérieur et donc la chaleur va, rendre plus difficile sa journée de jeûne. Et ne pas hésiter. Donc moi, ça, je le dis, même les personnes que j'autorise à jeûner, je leur dis: vous pouvez rompre le jeûne quand vous voyez que vous n'êtes pas bien, si vous avez une sensation de malaise, si votre glycémie est trop basse. C'est vrai qu'en dessous de 0,70, on s'expose à l'hypoglycémie, à la déshydratation. Donc voilà, on demande aux gens.
Là, il faut agir. Docteur Samia Farah, vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs, c'est Kabiné. Il nous appelle de Conakry, en Guinée. Bonjour Kabiné.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Ok. Moi, je suis diabétique depuis le mois d'octobre, octobre passé. Il y a pratiquement 2 semaines que ma glycémie s'est déstabilisée. Sinon, c'était vraiment, le taux était vraiment bien. Et là, juste parce que j'ai mangé un aliment à base de manioc plusieurs fois à cause de ses vertus sur la digestion. Voilà, donc j'avais envie de déjeuner et de gêner. J'ai dit j'ai envie de gêner. J'ai appelé mon médecin, j'ai demandé si je peux gêner. Il m'a dit que je suis bel et bien gêné à condition que mon diabète soit stable. Donc, comme je vous le disais tantôt, mon diabète s'est déstabilisé ces derniers temps. Par conséquent, ce début de Ramadan, je ne suis pas encore en train d'observer le jeûne. Mais le médecin m'a donné toute sa disponibilité à venir me faire consulter et pour qu'il puisse aussi me donner des conseils alimentaires avant que je ne commence vraiment le jeûne. Donc pour le moment, j'attends juste que mon taux redescende et je compte commencer le jeûne. Je pense que ça sera peut-être vers le liste comme ça.
Docteur Samia Farad, une bonne chose, hein, cet auditeur de Conakry qui suit justement les conseils de son médecin, totalement adapté à son niveau de glycémie.
Totalement adapté et personnalisé. Son médecin le connaît bien. Il lui a donné les bons conseils et ils ont été suivis. C'est vraiment très bien. Attendre que le diabète se stabilise pour se mettre à jeûner. Donc, bien surveiller ses glycémies et en attendant, tout faire sur le plan alimentaire et sur le plan de la prise médicamenteuse pour que cette stabilité revienne au plus vite et jeûner. Et bon, il verra son médecin qui va lui donner le feu vert. Mais voilà, très bien.
Comme vous le disiez tout à l'heure, quand on peut aussi bien interrompre le jeûne au cours du mois, eh bien, il peut y avoir une adaptation dans un autre sens, c'est-à-dire le commencer plus tard pour certaines personnes si elles le souhaitent.
Oui, parce que sur le plan religieux, il y a des adaptations, il y a une certaine souplesse en fait. Non seulement on est exonéré de jeûner si on est dans le cas d'une maladie, on peut soit verser une aumône pour remplacer les jours de jeûne qui n'ont pas été réalisés, soit jeûner à d'autres moments de l'année où peut-être on sera plus stable, où il fera moins chaud, où les jours seront moins longs et où on pourra avoir le loisir de jeûner tranquillement, un jour là, sans que ce soit trop pénible à jeûner l'été 30 jours d'affilée ou 15 jours d'affilée. Voilà, donc il y a des aménagements possibles et ce monsieur a très bien compris qu'il était important de suivre les conseils de son médecin.
Merci beaucoup, cabinet. Excellente journée à vous à Conakry, en Guinée. On va tout de suite prendre en ligne Mamadou, qui se trouve en région parisienne. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour, je m'appelle Mamadou Saliou Konkoli Diallo, j'habite à Saint-Pigny-Tiers-Marne dans 94.
Enchanté, on vous écoute Mamadou.
Merci. Et moi personnellement, je suis diagnostiqué depuis 6 ans au Portugal. Donc, il y a toujours le médecin qui m'a... je suis suivi ici actuellement à l'hôpital Adimondor par un médecin qui m'a beaucoup aidé. Donc, comme je vous le déjà dit tout à l'heure... Je souffre après le rupture des veines, je souffre terriblement après le rupture des veines.
Pendant la journée ça va, mais si une fois que vous avez bu, le soir, une fois que vous recommencez à manger, vous avez une réaction physique, c'est ça ?
C'est exactement ça madame.
Et quelle réaction vous avez ?
Réaction, j'ai des douleurs immenses après avoir mangé, j'ai des douleurs complètement paralysées, je me remets au lit pour mes... Pour me soulager un peu, mais ça va, ça n'ira pas. Le soir, ça n'ira pas, vraiment.
Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez décidé hier d'entamer le jeûne ou cette année, vous n'allez pas le faire ?
J'ai entamé hier, bon, mais aujourd'hui, compte tenu de la situation que j'ai entendu le médecin ici, maintenant, je me suis décidé presque d'arrêter, hein, car le diabète est particulier. Je ne savais pas que si le diabète ne va pas avec... le Ramadan. Donc aujourd'hui, je me suis persuadé avec le conseil de ce médecin-là. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé.
Docteur Samia Farad, on a entendu un malaise chez Mamadou. Comment on explique justement ces douleurs intenses, ces suées qu'il ressent Il parle aussi de vertige. Comment expliquer tout ça ?
Donc, si j'ai bien compris,
Les fois précédentes, ah oui. Pendant le jeûne, il avait une sorte de malaise.
Oui, bah probablement la réalimentation et probablement la déshydratation qui entraîne un métabolisme qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, parce que l'oxygène est apporté par l'eau et voilà, la déshydratation va entraîner des douleurs musculaires. Après, il y a peut-être d'autres subtilités que je n'ai pas parce que je ne connais pas son bilan.
Bien évidemment.
Il a peut-être une fonction rénale qui n'est pas tout à fait optimale. Il a peut-être des modifications au niveau de son potassium, au niveau de ses électrolytes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Mais je pense que la déshydratation est la cause principale. Et du coup, l'hyperglycémie, il doit faire une hyperglycémie importante au moment du resucrage et au moment de la réalimentation qui entraîne des réactions. Et voilà, s'il est si mal en point, c'est soit que les conseils ont... Enfin, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été observées, soit que tout simplement, il ne peut pas jeûner. En tout cas, en l'état, il ne peut pas jeûner. Il a besoin des conseils de son médecin ou il a besoin de se stabiliser avant de reprendre un jeûne et pas de son propre chef, plutôt avec les conseils de son médecin qui connaît très bien et son état clinique et son bilan biologique.
C'est ça, hein, Mamadou. Hein, si vous jamais voulez envisager de jeûner, parlez-en d'abord à votre médecin. Voyez avec lui, parlez-lui en tout cas de ses symptômes pour bien comprendre ce qui s'est passé. Et on vous souhaite une excellente journée donc en région parisienne. J'ai bien noté à Champigny-sur-Marne. On va tout de suite prendre en ligne de Conakry, de Guinée. C'est Amadou. Amadou, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous écoute, Amadou.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Mondiale. Je suis diabétique depuis 10 ans. Mais ces derniers temps-là, il y a 5 ans que je ne peux pas gêner. Et je voulais savoir, parce qu'il y a des diabétiques plus aigus que moi qui arrivent à gêner. Je ne sais pas maintenant pourquoi moi je ne peux pas tenir et qu'est-ce qu'il faut pour que je tienne. Parce que j'ai ma sœur qui est diabétique, mais qui gêne, et ma belle aussi. Un ami qui est sous insuline, mais il gêne tous. Et moi, je ne peux pas gêner.
Et vous dites, vous ne pouvez pas gêner parce que votre médecin vous l'a déconseillé ou parce que vous avez senti des malaises qui vous ont conduit à arrêter le jeûne?
Premièrement, j'ai suivi des malaises. J'étais en train de prier. Un vendredi, j'étais obligé de m'asseoir et quelqu'un qui était à côté de moi qui m'a sauvé, sinon j'allais tomber. J'ai eu des maux de ventre terribles. Je transpirais. Je n'ai pas pu tenir. J'étais obligé de manger quelque chose. Et après, j'ai essayé. Je suis allé chez le médecin. Il m'a dit que non, tu ne peux pas gêner.
Donc, on entend, donc, docteur Samia Farad, on entend tous ces symptômes, évidemment, ça ne va pas du tout. Là.
Amadou a probablement fait une hypoglycémie, tout simplement. Amadou ne peut pas se comparer aux autres, parce qu'on est tous différents. On a des traitements différents, on a une condition physique différente, on a un niveau de glycémie différent, on a une ancienneté de diabète qui est différente.
Donc, c'est pas parce que dans la famille ça va bien que nous, ça va être la même chose.
Voilà, et peut-être que les gens qui jeûnent autour de vous ne devraient pas jeûner, on ne sait pas. Et puis, on a notre propre tolérance. Alors après, il y a les traitements. Est-ce que les traitements n'induisent pas d'hypoglycémie? Est-ce que le repas qui doit être fait au lever du... Enfin, à l'aube, est bien fait? Est-ce que ce sont les bons aliments qui ont été consommés? Pourquoi il a fait une hypoglycémie? Est-ce qu'il a mal pris ses traitements? Est-ce que le traitement n'a pas été adapté? Voilà. Alors, on revient toujours à la même chose. Ce sont des conseils qui sont individuels et qui doivent être donnés par le médecin qui vous connaît. Donc si votre médecin vous a dit de ne pas jeûner, je pense qu'il avait suffisamment d'éléments pour vous le dire. Après, vous avez d'autres possibilités pour, comme je disais tout à l'heure, compenser cette absence de jeûne. Votre santé d'abord.
Voilà, Amadou, ce conseil du docteur Samia Farad. Excellente journée à Conakry. Docteur Samia Farad, est-ce qu'il y a des repères, des indices chiffrés, même si on a bien compris et insisté sur le côté individuel, justement, du ressenti aussi, ces indices de glycémie qui doivent inciter à interrompre le jeûne, au-delà du ressenti physique?
Oui, bien sûr, bien sûr. La meilleure façon de faire, déjà, c'est de pouvoir contrôler sa glycémie, si c'est possible, au bout du doigt, pour savoir à quel niveau de glycémie on est. Si on a cette possibilité, on contrôle sa glycémie, et comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de 0,70 grammes par litre de taux de sucre dans le sang, il faut manger. Il faut manger. Voilà. Après, si on est un tout petit peu plus haut, mais qu'on se sent pas très bien, soit on se resucre selon son ressenti, soit on va surveiller de façon rapprochée, et si on voit que ça a une tendance à la baisse, on se resucre. Donc en tout cas, on ne se laisse pas descendre en dessous de ce niveau. Ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'était pour l'élément chiffré. Et puis après, l'état physique peut aussi... Il y a des gens qui se sentent mal, même s'ils ont un niveau de 1 gramme, parce que peut-être ils ont un niveau habituel à 2 grammes et qu'il y a eu une chute brutale, et cette chute brutale leur a occasionné un malaise. Donc, dans le doute, il vaut mieux se resucrer.
Juste avant de partir pour le Mali, cette question, docteur Samia Farhad, c'est important de reconnaître les signes d'une crise, on le dit à chaque fois quand on parle du diabète. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ces signes qui doivent amener à consulter en urgence ?
Alors, deux types d'urgence. Soit on est dans le cas de figure dont on parlait il y a quelques secondes de l'hypoglycémie. Il faut se resucrer rapidement dès qu'on se sent mal, en fait. Hein, donc on se sent partir. Je ne sais plus lequel de nos auditeurs tout à l'heure nous a dit qu'il a fait un malaise. Jambes se dérobent. On transpire, on a chaud, on a la conscience qui se voile, qui s'obscurcit, on est dans un état d'obnubilation, et après on passe dans un cas de figure d'hypoglycémie grave, ou sévère en tout cas, puisqu'elle va occasionner une perte de connaissance, voire un coma. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de vous resucrer vous-même, qu'une tierce personne intervient, on parle d'hypoglycémie sévère.
Quand on dit on se sucre, pour parler concrètement, on mange quelque chose de très sucré pour justement couper cette hypoglycémie, c'est ça ?
Oui, on mange. Alors, en général, on conseille des sucres rapides. Alors, soit des morceaux de sucre à diluer dans de l'eau. En général, on demande de pas dépasser l'équivalent de 15 grammes de glucides, c'est-à-dire 3 sucres. 3 sucres, ça correspond à 2 cuillères à soupe de sirop, donc de menthe ou de grenadine. Mais c'est plus difficile, parce que quand on est en hypo... ça peut être un petit jus de soda, ça peut être un petit jus d'orange. Tout ce qui est sous forme liquide va être absorbé très rapidement, donc va permettre un resucrage rapide. Après, il y a l'autre cas de figure qui est l'hyperglycémie, qui peut elle aussi aboutir beaucoup moins rapidement, mais qui peut aussi aboutir à un coma. L'hyperglycémie qui va entraîner une acidification du sang et donc ce qu'on appelle une acidose, avec une production de corps cétoniques qui vont venir pareil obscurcir l'état de conscience et entraîner le coma. Et là, souvent, les gens se retrouvent aux urgences.
Dans des situations d'urgence.
En général, les gens sont informés de faire des rattrapages d'insuline s'ils sentent que la glycémie monte. Mais voilà, le problème, c'est que pendant le ramadan, souvent, on met des ornières pour pas regarder, et ça peut aller à cet ultime stade.
Docteur Samia Farhad, on part tout de suite pour le Mali.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, professeur Assassi Dibé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue, diabétologue, chef de service à l'hôpital du Mali. Professeur Sidibé, est-ce que l'on sait si dans votre pays, le Mali, hein, une grande proportion de personnes diabétiques observent effectivement ce mois de jeûne qui commence ?
Tout à fait. Nous sommes dans un pays laïque, mais à majorité musulmane, et les malades veulent vraiment faire le jeûne. Donc nous sommes confrontés à ce gros souci pendant le mois de Ramadan. Et c'est d'autant plus que nous avons 3 cas de figure. Nous avons des diabètes qui sont découverts pendant le Ramadan. C'est-à-dire le sujet ne se connaît pas diabétique, et c'est au courant du Ramadan qu'il se retrouve diabétique. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est des anciens malades qui se connaissent diabétiques, quels que soient les conseils du médecin, veulent quand même faire le Ramadan. Et enfin, il y a des anciens diabétiques qui tiennent compte de ce que le médecin leur a dit. Donc nous sommes confrontés à cela pendant tout ce mois de Ramadan.
Et d'après votre expérience, professeur Assassi Dibé, est-ce que ces patients ont l'air informés des risques très particuliers pendant cette période?
Bon, ceux qui se connaissaient diabétiques, oui. Mais malheureusement, les patients ne viennent nous consulter ou nous demander s'ils peuvent faire le Ramadan que le jour J-1, J-3. Ils ne viennent jamais avant pour être sûr qu'on puisse dire s'ils peuvent faire ou pas, parce qu'on doit avoir leur équilibre glycémique, on doit avoir leur niveau de traitement. Donc, il y a ce cas de figure qui nous pose d'énormes problèmes. Bon, ceux qui sont découverts pendant le Ramadan diabétique, ça, c'est vraiment dans des circonstances aiguës. Et là, en général, c'est une autre façon de prendre en charge.
Alors justement, du côté de ces paramètres, est-ce qu'il y a vraiment des éléments, par exemple des repères au niveau des tests, etc., qui vous poussent à dire à un patient, là, vraiment, il faut renoncer au jeûne cette année?
En général, oui, nous avons la glycémie qui est quand même facilement faite dans pratiquement tous les centres de santé qui s'occupent des diabétiques. Et cette glycémie est standard, bien sûr, ponctuelle, ne nous renseigne que ce qui se passe tout de suite. Et chez certains malades, on leur fait l'hémoglobine glyquée pour voir le niveau d'équilibre bien avant le diabète, et en ce moment, bien avant le Ramadan. Et c'est en ce moment que, selon le cas de figure, on va prodiguer des conseils qui seront plus ou moins suivis par le patient, parce que c'est la conviction du patient qui va faire qu'on va arriver à réussir ce Ramadan ou pas.
Alors justement, c'est très important à ce moment-là, la relation de confiance entre le médecin et ce patient, avec un gros travail de sensibilisation, professeur Assassi Dibé. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les gens sont suffisamment informés sur ces risques?
Je penserais qu'avec les campagnes de sensibilisation qui sont quand même prodiguées même à notre niveau, les gens savent très bien ce qui peut se passer pendant le Ramadan comme complication chez le sujet diabétique. Mais seulement, comme je disais, certains, malgré cela, veulent quand même faire leur Ramadan. Donc, nous continuons toujours à faire de l'éducation thérapeutique dans le service. Et au niveau des centres de santé, nous avons formé des médecins qui sont là-bas pour prendre en charge ces patients diabétiques. Mais nous avons toujours ce problème, ce souci du désir du patient diabétique à observer son Ramadan, quel que soit son état physique en fait.
Merci beaucoup, professeur Assassi Dibé, endocrinologue, diabétologue, d'avoir été en ligne avec nous de Bamako, chef de service à l'hôpital du Mali. On vous retrouve, docteur Samia Farad, toujours en direct de Tours. Bien évidemment, des conseils étroitement liés à la situation de chacun, au métabolisme, d'autant plus que pour certains diabétiques, eh bien, on peut avoir de front plusieurs maladies chroniques.
Oui, c'est presque le propre du diabétique.
Notamment les problèmes d'hypertension.
Voilà, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, quelquefois, je vous dis, des complications donc à type de maladie rénale, à type de maladie vasculaire, soit coronarienne, c'est-à-dire le cœur, l'angine de poitrine, des antécédents d'infarctus ou des antécédents d'AVC. Voilà, toutes ces maladies, sans compter d'autres maladies qui sont aléatoires et qui peuvent nécessiter déjà par elles-mêmes de ne pas jeûner.
Et qui nécessitent une vigilance particulière. On va donner la parole à un dernier auditeur de Priorité Santé. Il est en ligne du Gabon, de Libreville. C'est Lazana. Bonjour Lazana, on vous écoute.
Bonjour madame, je suis Lazana Diallo. Je vous appelle de Libreville, voilà.
On vous écoute.
Je suis diabétique depuis 2007. Donc, on m'avait trouvé le diabète depuis 2007. Mais en 2017, je suis allé en France rapidement pour faire le contrôle. Et on m'avait dit que j'avais problème de reins. Mais en France, on m'a trouvé que je n'avais pas de problème de reins. Et c'est plutôt parce que je ne buvais pas beaucoup d'eau et que j'ai eu les dépôts dans le rein. Donc, ils m'ont fait le réglo. Et puis, le diabète n'était pas réglo vraiment parce que j'étais jusqu'à 150, 160. Et ils m'ont mis à un niveau, ils m'ont donné au niveau metformine qui me correspondait. Maintenant, depuis là, je n'avais pas de problème en particulier. Maintenant, pendant le carême, je suis en train de vouloir faire, parce que j'ai commencé hier de faire le carême, et mon diabète, en ce moment, est type 2. Et je suis en train de faire le carême, et je me suis dit, est-ce que réellement, ça va me poser des problèmes ou pas? Parce que là, la santé, je ne constate pas de problème. Mais vu que je me réveille par avant, chaque matin à 1,40, 1,40, 1,20, 1,30, 1,25, Est-ce que j'ai des problèmes? Ça peut poser des problèmes ou même pas?
Lazana, est-ce que vous êtes allée consulter justement avant d'entamer ce jeûne?
C'est vraiment, je ne l'ai pas fait.
Vous ne l'avez pas
honnêtement.
Fait. Honnêtement. Docteur Samia Farhat, qu'est-ce que vous pouvez dire à Lazana?
Alors, a priori, je ne vois rien qui contre-indique son jeûne, moyennant le respect de pas mal de petites choses.
Justement, c'est peut-être le moment de reprendre ses conseils, notamment en termes de nutrition.
C'est ça. Déjà, il est important qu'il fasse 2 repas par jour. D'accord. Je ne sais pas comment est répartie sa prise médicamenteuse, mais en l'occurrence, le médicament qu'il a cité ne donne pas en soi des hypoglycémies. Donc, il va pouvoir prendre répartir son traitement entre le matin avant l'aube, le repas du matin, et puis le repas de la rupture du jeûne. Ensuite, le deuxième élément et qui est important notamment pour lui, c'est l'hydratation. Donc, pensez à bien s'hydrater toute la soirée, à boire toute la soirée, déjà à rompre le jeûne avec un petit peu d'eau avant de commencer à manger pour se réhydrater rapidement et boire bien sûr des boissons non sucrées, hein, cela s'entend, de l'eau, hein, il n'y a qu'une boisson qui est conseillée en général, c'est l'eau. Après on peut prendre un peu de thé, on peut prendre des infusions. Toujours sans sucre. Donc bien s'hydrater. On va contrôler sa glycémie pendant le jeûne si on ne se sent pas très bien. On va éviter les excès de sucre rapide et de graisse à la rupture du jeûne. Donc c'est là qu'on disait tout à l'heure que les dates une pour rompre le jeûne, cela me semble suffisant.
Il nous reste une trentaine de secondes.
D'accord. Manger équilibré, donc en apportant suffisamment de légumes verts, un fruit au repas. Éviter le grignotage dans la soirée, mais faire plutôt 2 à 3 repas. Ne pas trop se dépenser dans la journée, mais faire de l'exercice physique dans la soirée. Dormir suffisamment et privilégier les sucres lents pour le repas qui précède l'aube pour que ça tienne plus longtemps.
Voilà, Lazana, pour tous ces conseils, conseils d'horaire, conseils de nutrition. Et on vous remercie encore, hein, docteur Samia Farhat, d'avoir répondu aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes spécialiste en endocrinologie, nutrition, maladie métabolique à Tours. Et nous remercions une nouvelle fois France Bleu Touraine de vous avoir accueilli dans leur studio.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Juliette, ce bulletin de santé sera essentiellement consacré à la nouvelle épidémie de virus Ebola qui touche la République démocratique du Congo.
Réunion aujourd'hui d'un comité d'urgence par l'Organisation mondiale de la santé à Genève qui a élevé le risque de propagation en République démocratique du Congo à très élevé.
Et on saura dans le cours de la journée si cette épidémie constitue une urgence de santé publique de portée mondiale.
Au décompte de ce matin, Caroline, l'OMS dénombrait 44 cas, 3 cas confirmés, 20 probables et 21 suspects, 23 décès au total. Et Caroline, si l'OMS réévalue le risque, c'est parce que depuis hier, un cas recensé dans la grande ville de Bandaka, qui dépasse le 1 million d'habitants. Bandaka, c'est cette capitale de la préfecture de l'Équateur. C'est la première fois que l'Organisation mondiale de la santé confirme cette présence d'Ebola en zone urbaine, en République démocratique du Congo, alors que depuis la semaine dernière, c'est la région enclavée de Bikoro, dans le nord-ouest, près du Congo-Brazzaville, qui était concernée. Les précisions de Jean-Jacques Loirne.
À Bandaka, c'est dans la commune de Wangata qu'Ebola est apparu. Wangata est dos au fleuve Congo. À cause de cette situation géographique entre fleuve Congo et Ubangi, il y a un risque réel d'une amplification nationale et régionale de l'épidémie, affirme l'OMS. Hier, la circulation sur le fleuve Congo entre Bandaka et Kinshasa n'était toujours pas contrôlé. Dans cette ville carrefour, plusieurs centaines de contacts directs ou indirects ont eu lieu avec des malades. Le témoignage de cet habitant.
On ne va pas dire qu'il y a une psychose, mais l'affaire est prise très au sérieux ici. Le taux d'alphabétisation et d'information est plus ou moins limité, mais au niveau des médias, au niveau du gouvernement provincial, au niveau de la mairie, Ils vulgarisent tant qu'ils peuvent cette information. En Bandaka, on ne se salue plus à la messe. Maintenant, il n'y a plus d'accolades, plus de salutations.
Une bonne nouvelle, l'Institut National de Recherche Biomédicale a installé depuis hier un laboratoire de diagnostic dans la ville. Des moyens très importants seront nécessaires, dit un expert, pour surveiller et maîtriser Ebola à Bandaka. Pour l'instant, ces moyens humains et financiers ne sont pas déployés.
Jean-Jacques Louarne, pour Médecins Sans Frontières, le scénario a changé, hein, car les 8 précédentes épidémies d'Ebola qui ont jusque-là frappé la République démocratique du Congo s'étaient toujours manifestées dans des endroits difficiles d'accès et plutôt isolés.
Et Médecins Sans Frontières affirme, en citant les autorités, que plus de 500 personnes, 514 précisément, auraient été en contact avec des cas connus. D'après l'OMS, ces personnes sont désormais placées sous surveillance.
Par ailleurs, Juliette, plusieurs milliers de doses de vaccins expérimentaux contre le virus sont arrivées en République démocratique du Congo.
Vaccins en provenance de Genève. Dès lundi, le directeur de l'OMS en visite dans la région de Bikoro avait évoqué la diffusion de ce vaccin à la fin de cette semaine ou à partir de lundi. L'Organisation mondiale de la santé a donc décidé de passer à la vaccination avant même que l'identification de la souche du virus ne soit confirmée. C'est ce qu'explique Éric Delaporte du laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale.
L'une des premières interrogations par rapport à la mise en place de ce vaccin, c'est qu'on connaisse bien la nature de la souche circulante. Encore une fois, il y a de fortes chances pour que ça soit Ebola Zaïre, mais le séquençage qui doit se faire dans plusieurs laboratoires est en cours. Deux laboratoires ont été sollicités au Japon et puis également notre laboratoire de Montpellier. Ça va être fait très rapidement. Comme souvent dans ces épidémies, on essaye de retracer les chaînes de contamination. On remonte comme ça de cas probable en cas probable. Et semble-t-il, il y aurait une première alerte vers février. Dès qu'on a un cas suspect, hop, on doit intervenir. Les premiers cas peuvent être très très frustres. Et vous avez tout le spectre possible d'infection. C'est très compliqué à mettre en place un système de surveillance communautaire à partir de formes qui ne sont pas forcément cliniquement fortes.
Éric Delaporte de l'INRB, joint par Jean-Jacques Louarn et Juliette, bien sûr. Des mesures indispensables, série de mesures pour limiter la propagation de la maladie qui se transmet, on le rappelle, par contact physique avec les liquides corporels infectés. Et l'on peut aussi souligner que la viande de brousse est considérée comme un vecteur potentiel.
Oui, Caroline, et Médecins Sans Frontières rappelle donc ces mesures, prise en charge et prévention, le traitement rapide et l'isolement des malades, la localisation et le suivi des personnes ayant été en contact avec des cas et la sensibilisation essentielle des populations à propos de la maladie, les mesures sanitaires à prendre pour l'éviter, l'hygiène des mains, les soins médicaux et l'adaptation de certains rites funéraires.
Et puis Juliette, pour refermer ce bulletin de santé, cette information qui concerne cette fois la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme.
Oui, c'est la France qui l'an prochain va accueillir pour la première fois la conférence de financement du Fonds mondial de lutte contre ces trois grandes maladies infectieuses. Annonce mercredi de l'Élysée qui appelle la communauté internationale et le secteur privé à ne pas relâcher ses efforts. C'est la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial pour récolter de l'argent pour la période 2020-2022. Le fonds offre l'accès aux antirétroviraux contre le VIH-Sida à 11 millions de patients, des traitements contre la tuberculose à 18 millions de personnes.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ah, c'est tout. Samaké, Ophélie Lassen, Didier Bleu aujourd'hui, Laurence Snow avec nous. Et lundi, nous parlerons des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn. Vos questions, vos témoignages, on attend vos appels au 33 1 84 22 75 75. Et cette émission, bien sûr, vous pouvez la réécouter, la réentendre en podcast sur notre application Pure Radio et aussi sur notre site internet rfi.fr. La rubrique, c'est émission. On se retrouve lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.